Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Moujima au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. En ce jour, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, invite les investisseurs africains à venir investir en République démocratique du Congo. Cet appel a été lancé la semaine dernière à Abuja, au Nigeria, où il participait au 5e forum sur l'entrepreneuriat organisé par la fondation Tony Elume Lume. Félix Tshisekedi a aussi profité de cette tribune pour présenter sa vision du développement du continent africain qui passe par la lutte contre la corruption. Selon vous, quels pourraient être les préalables pour faciliter l'installation de ces investisseurs au Congo? À l'adresse paa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 63 30 ou encore au 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook où se tient également ces débats sur la toile. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents sujets que nous vous proposons pour l'échange citoyen. Vous êtes plus de 2000 à avoir lu et commenté ces sujets. Il faut encore merci de l'intérêt que vous accordez à nos débats. Nous disons également merci à Polydor Basunga qui assure la mise en onde de cette émission réalisée par Pierrot et Lameji, une émission supervisée par Martin Sebujangwe et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Monsieur Anthony Kinzo qui est avec nous. Bonjour monsieur.
Bonjour J.R.
Vous êtes directeur général de l'ANAPI et vous avez accepté de participer à ces débats pour la toute première fois avec l'ensemble des compatriotes à travers le pays et à l'étranger. Mais d'entrée des jeux, la RDC, selon plusieurs rapports, est susceptible d'attirer des investisseurs de par l'importance de ses ressources naturelles. Malheureusement, elle est de moins en moins attractive. Comment expliquer cette situation, vous qui êtes le premier investisseur de la RDC, si on peut vous appeler ainsi, parce que l'ANAPI gère des investisseurs, la promotion des investisseurs.
Merci beaucoup JR et merci à Radio Okapi de nous avoir fait, de nous avoir tendu cette main d'association pour finalement échanger sur cette question, cette épineuse question des investissements, mais principalement la question de promotion des investissements. Je ne suis peut-être pas le premier investisseur, je voudrais laisser cette primeur à tout investisseur qui est en train d'arriver. Je suis simplement cette personne qui porte la voix pour dire finalement qu'en RDC, c'est possible d'investir. Et aujourd'hui, pour rebondir sur ce que vous nous avez dit, nous, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, nous pensons qu'il y a une certaine perception qui a été communiquée à l'extérieur du pays, mais une perception qui a été appuyée par certaines pratiques, des pratiques qui ne sont pas à encourager. Je prends des cas où il n'y a pas de bonne gouvernance, je prends des cas où nous avons des gros problèmes de corruption, je prends des cas où nous avons des sérieux problèmes au niveau de l'administration même qui n'encourage pas les investisseurs qui, lorsqu'ils sont en train d'arriver ici, de pouvoir être aisés dans leur exercice de faire les affaires en RDC. Maintenant, nous sommes en train de nous dire que s'il y a le mal, ça veut dire qu'il n'y a pas seulement le mal, il y a aussi le bien. Il y a le bien en termes des grosses réformes qui sont mises en place, d'autres qui sont déjà en application, d'autres qui sont en cours et d'autres qui sont en perspective. Maintenant, une chose est que nous puissions avoir des réformes non seulement qui sont écrites, appliquées, et d'autres qui devraient normalement être appliquées. Et à ce moment-là, nous nous retrouvons avec le plus grand nombre de personnes qui sont confrontées à des obstacles systémiques, des obstacles de système, et même des obstacles sur les questions d'absence des textes qui devraient être à leur disposition. C'est un peu à ça que je peux commencer, disons, d'entrée de jeu, placer la matière sur la question de la promotion des
investissements. Alors, je reviens sur ma question, ce paradoxe entre l'RDC, qui est un potentiel en termes de ressources naturelles. Malheureusement, elle est de moins en moins attractive. Et comment expliquer cette situation? Les investisseurs ne viennent pas. Là, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Il y a des réformes. avant cette réforme, les taux d'investissement étaient trop faibles.
Oui.
L'idée, c'était de renverser la pyramide. Mais est-ce qu'à ces jours, on peut dire que la situation s'est nettement améliorée?
Nettement amélioré. J'ai l'habitude de dire, pour ceux qui me suivent, j'aime plutôt dire que nous sommes dans un système de verre à moitié, j'allais dire plein. Je ne veux pas dire à moitié vide, parce qu'en fait, je pense que un certain nombre d'éléments ont été mis en place. J'ai aimé ce qu'un jour le président de la BAD a dit. Il est important de pouvoir présenter les potentialités, mais il n'y a pas un marché des potentialités. Je ne veux pas réagir à ce qu'il dit, mais il est important de dire ici aujourd'hui qu'avant de présenter quelque chose aux investisseurs, il faut leur dire voici les lieux et les endroits où vous pouvez trouver les investissements. Paradoxe qui existerait entre le potentiel et l'attraction des investissements. Je peux dire aujourd'hui que nous avons quand même une bribe, ou pour ne pas dire un petit maillon d'investissement. Investisseurs qui viennent. Nous avons une image qui a été présentée de la RDC à l'extérieur du pays qui est Ebola, qui est insécurité, qui est corruption, qui est insécurité juridique, insécurité politique. Mais lorsque les investisseurs viennent
c'est
ici...
C'est ce qui n'est pas non plus faux dans l'ensemble. Parce que les chefs de l'État est revenu d'ailleurs sur cette question de la corruption.
Mais vous et moi, nous sommes sur cette question, sur cette belle terre de la RDC. Est-ce que nous avons Ebola à Kinshasa? Est-ce que nous avons Ebola à Lubumbashi? Est-ce que nous avons Ebola en province orientale, par exemple? Or, ce sont ces lieux dans lesquels nous avons des investisseurs. Est-ce que nous avons l'insécurité, j'allais dire l'insécurité, même en termes physiques, surtout l'étendue du territoire. Les lieux dans lesquels nous avons l'insécurité, c'est des lieux dans lesquels nous trouvons des opérateurs miniers qui non seulement produisent, exportent et vendent. Le paradoxe existe entre le fait qu'on véhicule cela et avec le fait que nous avons dans ces mêmes lieux des opérateurs miniers qui sont. Alors, à vous, si je peux me permettre de poser la question, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un paradoxe avec une présence étrangère en train de pouvoir exporter, produire et vendre et dire qu'il y a insécurité? Mais je suis d'accord avec vous que ce sont des éléments qui sont des déterminants sur les questions de climat des affaires. Et c'est pour cela que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a porté à bras le corps déjà dans son discours d'investiture en disant qu'il ferait premièrement de la question de l'amélioration du climat des affaires un de ses chevals de bataille et deuxièmement, la question de corruption. Pour preuve, dernièrement, il a présidé lui-même un grand forum sur la corruption en donnant des indications qui sont claires. Pour preuve, lorsqu'il a parlé au gouverneur de province, il a insisté sur deux ou trois éléments. Il y en a plusieurs. J'en ai retenu trois qui regardent mon secteur. La bonne gouvernance. Deuxièmement, la transparence dans la gestion. Et troisièmement, la question de corruption. Dans tous les discours qu'il présente, il insiste sur ces éléments. Et ça, j'appuie sur un élément que l'on regarde assez régulièrement lorsqu'on est en train de regarder les déterminants sur la question des investissements. L'appropriation institutionnelle. Et là, nous l'avons. Nous l'avons à bras le corps, nous l'avons avec le premier citoyen de la République qui est le chef de l'État. Donc, je me dis que nous sommes en train de faire des pas et des gros pas. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de ces phrases, au-delà de cette communication, qu'il puisse y avoir des actes posés, qu'il puisse y avoir de la pratique. Et c'est sur ces pas que nous sommes en train d'avancer. Et j'ai bon espoir que nous allons évoluer sur cette question, non seulement d'anticorruption, aussi sur des questions de transparence, mais aussi sur des questions des réformes qui vont transformer un certain nombre de choses. Donc le paradoxe pourrait bien exister entre ce qu'on peut dire que nous avons des réformes qui existent et de potentiel en ressources naturelles, mais j'ai un espoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se lever. Peut-être que vous ne le voyez pas. Kinshasa, la RDC, ce n'est pas Gombe. La RDC, ce n'est pas Kinshasa. Et il faut le voir à l'intérieur du pays. Et là, il y a une transformation. Si vous regardez les activités du gouverneur Mouyej au Lualaba, vous allez vous dire que c'est un boom. Si vous voyez ce que le gouverneur Bamanissé est en train de faire, vous allez vous dire que c'est un boom. Et ça, ce sont des exemples que je peux citer aujourd'hui. Au Congo central, on en a. Et je peux vous en parler. On a une heure avec vous pour échanger sur cette question.
Alors, comment faire pour arriver à établir cet équilibre entre les investissements directs nationaux et étrangers en RDC?
Et je suis très content de cette question. Et là, je voudrais que mon discours soit totalement crédible. L'une des premières choses pour que nous puissions aller de l'avant, c'est, je l'ai cité, l'appropriation institutionnelle et politique, nous l'avons. La deuxième chose, il faut véritablement redonner une justice à notre pays. Parce qu'en fait, un investisseur qui ne se sent pas juridiquement protégé, il va se dire, est-ce que je peux faire des affaires à l'intérieur? La troisième chose que je peux dire à cette question, c'est qu'il nous faut établir ce qu'on appelle l'infrastructure. Les infrastructures de base doivent être totalement communiquées. Et ça, c'est très important. La quatrième chose, et je vais aller sur les éléments qui sont très, très simples et basiques, la simplification des procédures. Il faudrait que lorsque l'investisseur vient ici, qu'il trouve des procédures qui soient simplifiées. On ne doit plus rester dans des grosses procédures. La cinquième chose, c'est la réduction du délai dans les traitements des dossiers. Il est aujourd'hui anormal de voir, pour simplement un accusé de réception, on est obligé d'attendre des mois. On doit changer cette histoire. Et aujourd'hui, il y a des leaders qui sont en train de travailler pour améliorer cela. La cinquième chose, c'est l'allègement des coûts des opérations, non seulement des douanes, non seulement de logistique, de supply chain, je peux les appeler. Et aujourd'hui, on y a travaillé. Nous avons le guichet unique de création d'entreprise qui est en train, qui a un exemple patent de réduction de coûts. $80 pour une société lorsqu'il faut créer, $30 pour une personne physique. La cinquième chose, la transparence et la réduction des procédures administratives. Il faut que l'on dise quelle est la procédure et il faut que l'on dise comment on y accède. La cinquième chose, c'est l'élimination progressive, pour ne pas dire totale, des tracasseries administratives et même policières. Je vous ai donné un éventail et on peut échanger sur chaque point que j'ai fait. Et l'investisseur, lorsqu'il vient, il sent que cet environnement est propice. À la limite, il n'aura même plus besoin d'exonération. Et il va dire, je peux faire les affaires lorsque les règles sont établies. Voilà un peu comment je peux brosser ce tableau.
Merci beaucoup, Anthony Kinzo, directeur général de la LAPI. Nous allons poursuivre ce débat tout en ouvrant le standard afin d'accueillir les avis des uns et des autres. Vous êtes partout en République démocratique du Congo qui souhaiterait donc intervenir dans cette émission ou encore à l'étranger. Vous nous suivez sur www.radiocapi.net. N'hésitez pas, composez les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Il faudrait l'appropriation institutionnelle et politique, poser des actes importants, la justice, travailler également l'infrastructure, simplifier des procédures, la réduction des charges ainsi que l'allègement fiscaux. Et autant des propositions, des préalables proposées par notre invité Ernest. Vous êtes à Matadi, Jérémy à Lubumbashi, Simo également dans la ville portuaire de Matadi. Vous nous avez rejoint. Ernest, bonjour.
Bonjour, cher. Bonjour à nos invités, à tous les compatriotes et citoyens de la Terre qui sont branchés à la Radio Capi pour cette émission.
Comment réagissez-vous d'abord à l'appel du chef de l'État qui demande à ce que les investisseurs africains puissent venir investir en RDC et question aussi de pouvoir lutter disons, contre la corruption? Et vous avez suivi notre invité qui a posé quelques préalables pour arriver à l'installation des investisseurs au Congo. Comment vous réagissez?
Merci beaucoup, mais je crois que même si l'on a parlé déjà des investisseurs africains, mais déjà nous avons la communauté ouest-africaine qui est ici au Congo. Nous avons une forte communauté de la communauté internationale, occidentale, Europe, Amérique, Asie qui sont ici. Mais je me demande, mais comment déjà les gens qui sont ici, qui travaillent dans des conditions qui sont les nôtres, sont en train de fermer, en train de déclarer faillite, fermer les affaires, ils ont laissé partir pour laisser un grand nombre de Congolais au chômage. Comment déjà la République est en train de gérer cette question de ceux qui sont déjà ici? Alors, nous sommes dans un système de communication. Eux qui sont ici communiquent aussi avec leurs frères qui sont restés dans leur pays, qui ne venaient pas ici parce que les choses ne tournent pas. Mais au niveau interne,
oui, mais Ernest, ça risque de paraître un peu comme trop paradoxal, le fait que la RDC a lancé cette réforme et également est entrée dans ce processus de l'amélioration du climat des affaires depuis 2012, si ma mémoire est très bonne, même bien avant avec le code des investissements. Ben alors aujourd'hui, comment il peut y encore avoir des investisseurs qui y sont découragés et qui veulent décourager les autres?
Au niveau interne d'abord, pendant que vous demandez aux autres de venir investir, venir avec leur argent ici, mais le système de fonctionnement interne n'inspire pas confiance. Combien le gouvernement sécurise d'abord la main-d'œuvre interne pour s'imposer, d'ici pas imposer, pour donner la ligne de conduite aux investisseurs? Mais c'est là où il y a le problème. Donc le gouvernement ne s'est pas assuré d'abord, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, il y a des problèmes internes ici qui posent la difficulté aux nationaux et tout ce qu'on a cité là-bas, tracasserie policière, administrative et ainsi de suite, ne rassure pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si vous regardez toutes les entreprises extérieures, étrangères qui sont ici, sont en train de fermer même les nationaux. Il y a partout des vagues de fermetures des entreprises et des chômages qui se présentent. Donc, nous, il faut que le gouvernement soit d'abord les modèles pour rassurer les nationaux et les étrangers. Nous avons des nationaux, des Congolais, qui ont l'argent, mais qui préfèrent investir à l'étranger que de ces pays. Donc c'est ça le paradoxe dans notre système de gestion. Alors, lorsqu'on appelle les gens à venir, on ne peut pas venir là où, même s'il n'y avait pas de bruit de bottes dans les pays, dans tous les coins de la République. Mais il ne faut pas que ces gens viennent seulement dans les grandes villes. Le Congo n'est pas seulement Matadi, Kibumbashi, Kinshasa et Goma. Donc le Congo, c'est tout le coin et le coin. Mais or, à l'époque, je me rappelle, même les Portugais, qui sont arrivés ici, les Portugais étaient même au village avec les compatriotes, les Congolais du village. Maintenant, ceux qui viennent, ces investisseurs modernes, ils viennent seulement pour les grands centres, sinon au village, là où il y a l'espace de matière première, mais la vie reste ici. Et j'étais à moi de la fois, parce qu'on me disait que le numéro 1 de Péréco habite Pointe Noire, mais il vient travailler au Congo, même la pause à midi, il rentre à Pointe Noire. Donc, il consomme l'argent de la République, il dépense à l'étranger. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas la sécurité dans tout ça. Et ça ne peut pas rassurer les Congolais et les étrangers de venir travailler dans la quiétude ici. Donc, de la même manière qu'au niveau interne, je prends un cas. Vous créez un gouvernement central ici au Congo central, le gouvernement non gouverné, où la majorité des ministres, 60% peut-être, viennent de Kinshasa. Et ici, ils viennent, ils prennent l'argent du contribuable du Congo central pour aller dépenser à Kinshasa. Donc, c'est tout ce système qu'on doit revoir et le gouvernement doit ouvrir l'œil. S'il tient, c'est le président de la République, Félix.
Mais voilà, c'est pourquoi notre invité a parlé tout à l'heure de la gouvernance. Je crois qu'il y a tout un tout dans ce que vous venez de dire. Mais bon, la question qui relance encore le débat, c'est cet arsenal juridique tout autour de cette réforme. Mais pourquoi ça ne marche pas? Merci beaucoup Ernest. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Voilà, il y a des petits soucis avec la ligne de Jérémy. On prend plutôt Simon. On reste dans la ville province, dans la ville portuaire de Matadi. Et Simon Tiloulou, vous êtes à Matadi. Bonjour, Simon.
Oui, bonjour, JR, et bonjour à tous les auditeurs qui me suivent et qui m'ont suivi il y a longtemps. Et bonjour à toi-même et à l'invité aussi.
Alors, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui. Pour les investisseurs, parce qu'il y a des volets. Le premier volet pour les investisseurs. Moi, je pense qu'il ne faille pas simplement voir les faiblesses qu'il y a dans notre pays pour venir investir. Mais aussi, il faut voir la force et les opportunités qu'il y a. C'est plein d'opportunités et beaucoup de forces aussi. Quand vous voyez ces deux valeurs, il y a moyen de venir parce qu'il y a des sociétés qui sont là, vous voyez, dans le domaine des communications, il y a des gens qui ont osé, ils amassent l'argent, même dans les sociétés, dans les circuits bancaires, ainsi de suite. Les investisseurs sont là. Et ces investisseurs doivent être capables, étant multinationaux, doivent être aussi porte-parole de ces pays pour lesquels ils amassent de l'argent, aller aux autres qui sont dans leur pays et faire voir comment ils émergent dans ces cas-là. Parce que lorsque ces entreprises gagnent ce qu'ils gagnent là, c'est un moyen aussi pour nous de faire passer le message. Mais qu'à cela ne tienne, moi personnellement, avec les rationalités...
Oui, Simon, comment vous réagissez par rapport à ce que venait de dire notre invité tout à l'heure, lorsqu'il a cité quelques préalables pour qu'on arrive réellement à avoir un investissement important? À RDC, il parle de l'appropriation institutionnelle et politique qui existe déjà. D'ailleurs, est-ce que vous avez observé ça aussi à votre niveau? La question des infrastructures. Aujourd'hui, quand on va parler des entreprises, à peine j'ai vu quand même une banque qui a construit un immeuble sur le boulevard. Bon, je ne sais pas si ça lui appartient, parce que les infrastructures, quand on investit, il faut que les infrastructures suivent aussi. Sinon, c'est vraiment un hiatus. Alors, la question de la simplification aussi des procédures et la question de la justice. Alors, comment vous réagissez?
Oui, en fait, là, c'est pourquoi je félicite le président de la République. Il faut un coup fort. Maintenant, au niveau de l'interne, parce que je parlais des investisseurs externes, qui ne peuvent pas seulement voir des faiblesses, mais aussi voir des forces et des opportunités. Mais du point de vue interne, c'est là où il faut nettoyer. Vous voyez, ce qui fait que à l'interne qu'on échoue, c'est cette politique de nomination par l'autorité morale. Regardez les entreprises à portefeuille. Regardez les résultats qu'elles nous fournissent sur le terrain. Pour ne pas les citer la semaine, je crains même que vous soyez coupé de l'énergie. Vous voyez tout ce qu'il faut, parce que déjà au niveau des portefeuilles, des nominations des cadres, des nominations des gens, ils viennent pas pour rendre compte à la société, pour aider la société, mais pour rendre compte à ces gens-là qui les nomment. Et ils s'appellent les plus forts. Pour preuve, je vous parle de la Perenco. La Perenco ici, c'est une société qui exploite des ressources pétrolières. Et qu'il y a des pourcentages de rétention. Mais il y a des années ici où le directeur a chassé les députés qui étaient partis parce que cette société n'a jamais donné la rétrocession de la province. Et ils ont chassé les députés, même les ministres provinciaux
voilà.
qui partent.
Ben, je comprends, chacun prêche pour sa chapelle. Vous parlez de Congo central, c'est une réalité là-bas. Je crois qu'à un moment, parole aux auditeurs, on reviendra sur les actions sociales que pose Perenco sur place là. Donc, ce n'est qu'une partie, Rémi Simon. Merci beaucoup. Innocent, on va terminer avec vous avant de revenir à notre invité. Innocent, vous êtes à Goma, bonjour.
Bonjour, papa journaliste. Moi, je voulais dire que on n'a pas besoin d'investisseurs étrangers pour développer notre pays. On a juste besoin de la sécurité et du financement de l'entrepreneuriat. Dans ce sens que nous devrions ouvrir ou adopter des stratégies incubataires des entreprises. Il y a des gens qui ont de bonnes idées ici chez nous, mais qui manquent de l'argent, ils manquent de financement, même à moindre coût. Ce qu'il fallait que le président fasse est qu'il puisse ouvrir même un fonds d'aide aux jeunes pour voir comment ce fonds-là pourra aider le jeune à se lancer. Un système d'incubateur, ça nous suffit justement. On peut aller à Walikale, on peut aller à Beni, nous avons une concession en RDC, il y a beaucoup de gens qui ont une concession, mais ce n'est pas accessible. Ce dont nous avons besoin, c'est juste la sécurité. S'il y a une sécurité, il y a une justice, le peuple et le pays peuvent se développer facilement économiquement.
Voilà, un système incubateur, je crois que nous allons revenir d'ailleurs avec notre invité tout à l'heure. Merci beaucoup. 081-890-6030 ou encore 081-890-4969.
Écho du développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes des solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le samedi à 13h05.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Nous venons là d'écouter la première série des auditeurs, Ernest Dematadi, Simon Tiloulou, ainsi que Olivier, je crois, qui est intervenu en dernier. Alors, d'entrée des jeux, on commence par cette question d'un système incubateur. Monsieur le DG.
Merci beaucoup, Gér. Merci beaucoup pour les pertinentes, je vais appeler ça intervention. De nos différents auditeurs, et j'imagine qu'ils avaient peut-être beaucoup de choses à dire aussi. Mais je voudrais ici revenir sur la question des incubateurs, et puis je reviendrai sur la question de Simon et ensuite d'Ernest. Je voudrais rassurer Simon ou Olivier de Goma. Il a un avis qui dit que bon, voilà, on n'a pas besoin des investisseurs étrangers pour venir ici. C'est un avis, c'est son choix, que je respecte, mais que je partage pas. Parce que moi, je pense que les États se développent aujourd'hui avec l'apport des autres. Ça veut dire que nous avons toujours besoin les uns comme des autres ou bien les uns des autres. Et il est en train de prôner l'incubateur, ce pour lequel je l'appuie, mais je voudrais lui donner l'information qu'aujourd'hui il y a plusieurs incubateurs qui existent en RDC. Premièrement, au niveau de l'OPEC, l'Office de promotion des entreprises, des petites et moyennes entreprises, est en train de pouvoir fédérer un incubateur aujourd'hui qui est déjà opérationnel, l'incubateur queer. Le rôle et les missions de l'OPEC sont de pouvoir encadrer les PME. Mais la question c'est de savoir, est-ce que les PME vont vers l'OPEC? Est-ce qu'elles connaissent les missions de l'OPEC? Qu'on va poser la question à côté, la question pendante, est-ce que l'OPEC fait la vulgarisation? Je peux vous assurer que l'OPEC est en train de faire la vulgarisation au fur et à mesure qu'elle est en train d'avancer. Au-delà de l'incubateur qui existe au niveau de l'OPEC, l'incubateur queer, nous avons des incubateurs tels que des Lions, par exemple, avec lesquels nous avons travaillé, pour rassurer Monsieur Olivier et la plupart des auditeurs. Nous avons accompagné l'incubateur des Lions à pouvoir formaliser 15 startups, pour ne pas dire 25 aujourd'hui, pour que, un, elles puissent se formaliser. Nous avons assisté à créer leur société, nous avons assisté à pouvoir ouvrir leur compte en banque avec l'appui et l'assistance de Equity Bank. Je ne fais pas une publicité, mais je présente les faits tels qu'ils sont. Nous sommes allés au niveau du guichet unique de création d'entreprise où nous avons fait cet accompagnement à zéro franc. Et donc, on a accompagné cet incubateur. Et aujourd'hui, il y a un programme que nous allons donner à ces incubateurs, à ces entreprises plutôt, dans l'incubateur des Lions. Comment elles peuvent remplir les dossiers pour être éligibles au cours des investissements avec leurs projets. Cet incubateur les aide à formaliser leur business plan, à faire des présentations de leurs projets en face des investisseurs. Et nous avons même amené cet incubateur des Lions au niveau de Dubaï qui est en relation avec certaines entreprises. Donc c'est pour dire qu'il y a cet accompagnement-là. Deuxièmement, on est en train de parler de financement des jeunes. Je peux dire à Monsieur Olivier qu'il y a déjà ce qu'on appelle le fonds de garantie pour les PME qui a déjà été mis en place l'année antérieure. Et aujourd'hui, on attend simplement qu'on puisse avoir ce qu'on appelle les animateurs et puis qu'on puisse avoir le fonds qui existe là-dessus. Et donc, ça, c'est très important. Il a même été annoncé qu'il va y avoir un renforcement de ces fonds de garantie. Donc, c'est pour dire à Monsieur Olivier que c'est une porte qui est ouverte.
C'est plutôt innocent. Olivier n'est pas encore passé.
Alors, c'est plutôt innocent. Okay.
Innocent de Goma.
Oui, innocent de Goma. C'est une porte ouverte, mais que j'appuie. Maintenant, il faut le faire dans toutes les provinces. Ce sont des initiatives que les gouverneurs de province peuvent mettre en place. Et nous, au niveau de la NAPI, nous descendons au niveau de gouverneur de province pour leur dire quels sont vos programmes de développement, nous pouvons vous accompagner et vous assister dans telle chose. Et nous avançons avec monsieur Ernest de Matadi qui a dit qu'il y avait des fermetures des entreprises. Est-ce que nous étions en train d'accompagner? Quelle est la gestion de ceux qui partent? Nous avons, nous, fait face lorsque nous sommes arrivés, madame Rose de Rebukele et moi-même, face à la fermeture de quelques entreprises. Mais il y a plusieurs causes dans la fermeture des entreprises. Bien sûr, on peut y citer les tracasseries fiscales, les tracasseries administratives, policières. On peut aussi citer un certain nombre de poids de pression fiscale, mais il y a aussi ce que j'appelle les gouvernances de ces entreprises, ce que nous ne connaissons
pas. Faillite.
Il peut y avoir des mauvais choix de gestion de la part des entreprises. Il peut y avoir des mauvaises orientations de stratégie dans ces différentes entreprises qui peuvent concourir à beaucoup de choses et qui peuvent donc faire en sorte que on arrive à fermer l'entreprise. Je ne vais pas ici disséquer et faire l'avocat de l'État simplement en disant je suis en train de protéger l'État. Je sais qu'il y a un poids fiscal. Je sais qu'il y a des tracasseries. Mais dans la faillite, il y a plusieurs causes. Il ne faut pas simplement regarder. Qu'est-ce que nous faisons pour les entreprises qui sont en train de partir parce qu'il y a un taux de chômage qui est en train de s'ajouter? Nous avons approché quelques entreprises qui ont fermé en leur posant la question. Est-ce que vous avez posé les bonnes questions aux bonnes personnes? Et il y en a qui se sont rendu compte qu'elles auraient pu peut-être obtenir l'accompagnement de la NAPI parce que nous faisons le plaidoyer des entreprises pour décanter certaines situations. Si vous avez bonne mémoire ou si vous pouvez vous renseigner, vous allez vous rendre compte qu'avec la FEC, il nous est arrivé de pouvoir régler en partenariat avec la FEC une question avec la DGRAD. Et ça permet à certaines entreprises de pouvoir avoir un élément allégé. Là, je suis en train de gérer un autre contentieux, je ne le mets pas encore sur la place publique jusqu'à ce que nous puissions aboutir. Nous sommes en train d'accompagner, mais nous accompagnons les entreprises qui se trouvent en faillite. La loi existe. Nous avons la loi sur le concordat, la loi sur la faillite, qui fait en sorte que lorsque une entreprise est dans cette situation, elle peut obtenir des avantages, des exonérations qui peuvent lui permettre de pouvoir se relever. Et donc, il faudrait que les entreprises soient informées de celle-là. Mais je voudrais préciser ici, le citoyen lambda de la RDC doit savoir qu'il y a eu des réformes qui ont été mises en place. Je peux le citer dans un certain nombre d'indicateurs. Par exemple, sur le transfert de propriété. Il y a un délai, il y a une réduction de délai de mutation de 15 jours pour obtenir les certificats d'enregistrement, par exemple, pour les immeubles qui sont proches de la circonscription et à 21 jours pour ceux qui sont éloignés. Ça, c'est les éléments qui existaient. Les gros dossiers judiciaires, c'est sur des questions de propriété. Mais de plus en plus, on est en train d'avancer. Aujourd'hui, nous avons mis en place un projet pilote pour pouvoir informatiser toute une circonscription foncière. La plupart des citoyens ne le savent pas. Dès que nous allons voir quels sont les résultats, nous allons le dupliquer. Et là, nous avons la coopération directe du secrétaire général aux affaires foncières. À l'époque, on avait la coopération du ministre des Affaires foncières, Maître Louméa, que je salue. Et ça, ce sont des éléments sur lesquels nous devons avancer. Est-ce que les gens savent qu'il y a eu une réduction du taux de l'impôt sur les bénéfices et profits de 35 à 30%? Mais est-ce que les gens savent que nous venons de 40%? En moins de 5 ans, ou peut-être en 5 ans, hier, on a réduit deux fois le taux de l'impôt sur les bénéfices et profits. Je voudrais parler ici aux fiscalistes qui nous posent, qui me disent en face quel est le pays qui l'a déjà fait. Et s'il y en a, peut-être que je ne connais pas, est-ce qu'ils ne comprennent pas la portée? Nous venons de 16% de taux de pénalité par jour de retard. Aujourd'hui, dans ce pays, en 2019, nous en sommes à 2%
en réalité,
par mois
en réalité,
de retard.
Cette problématique du climat des affaires ne pose plus problème.
Je ne peux pas le dire, sinon je risque moi-même de pouvoir dire que je suis dans un monde idéal.
Des éléments déterminants, des clés, et je crois que la difficulté n'allait plus exister.
Non, JR, non. La question du climat des affaires, elle existe parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Je suis en train de donner ici quelques indications qui montrent que des signaux d'avancement existent. À une époque, on ne pouvait pas déjà parler de la question du climat des affaires dans la voie des ondes. Ça, c'est un élément qui est aujourd'hui un élément positif. Vous êtes un journaliste chevronné d'une certaine année. Il y a une liberté de communication aujourd'hui. Ça, c'est des éléments importants sur la question du climat des affaires. Je suis simplement en train de dire que il y a des petits pas que nous sommes en train de faire. Alors, si vous êtes en train de regarder simplement les éléments qui ne marchent pas, ça veut dire que vous ne saurez pas regarder les éléments qui marchent. Mais je suis d'accord, et avec vous, JR, et avec mes collègues, et avec ceux qui sont en train de me suivre, que nous avons encore beaucoup de choses à faire. Mais ça ne dépend pas seulement du décideur. Ça dépend de tout citoyen dans son propre, dans sa propre maison. Avant de pouvoir dire, Tailabiso Mboka Oyo, je voudrais dire à cette personne, Tailangandaku Oyo, parce que lorsque vous laissez des immondices devant la porte, qui va venir l'enlever? Vous voulez que l'État puisse venir l'enlever? Ça commence par ce qu'on appelle un état d'esprit, un mindset. Le Congolais doit lui-même être un champion du climat des affaires. Respecter la loi. Si on vous oppose quelque chose qui est anti-loi, vous lui dites, la loi ne dit pas ça. Je vais vous donner un autre exemple. Nous avons, grâce au financement de la BAD, fait placer dans les circonscriptions foncières de la ville de Kinshasa des panneaux qui montrent qu'il faut payer autant pour obtenir les certificats d'enregistrement. Est-ce que vous savez que nous avons fait face à une résistance? Résistance de la part de certains membres de l'administration, mais est-ce que les gens savent qu'on est en train de faire ça? Moi, je dis aux gens...
Oui, parce que l'affaire des guichets uniques, ça renvoie quand même beaucoup de gens au chômage. Guichets uniques, ça réduit sensiblement la corruption, ça renvoie à certaines personnes au chômage.
Mais je suis en train de me dire, lorsque nous voulons l'excellence, il y a un prix à payer. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Et je peux vous assurer une chose. Lorsque l'informatisation va entrer dans l'administration, vous allez mieux parler de cette question de réduction d'emploi. Mais ça crée quelque chose d'autre. C'est une spécialisation d'emploi. Nous allons avoir maintenant dans l'éducation des filières beaucoup plus développées. Aujourd'hui, combien de maçons nous avons dans le pays? Combien de menuisiers nous avons dans le pays? Combien de plombiers nous avons dans le pays? Quels sont ces instituts spécialisés? À part l'INPP aujourd'hui qui ne fait que du renforcement de capacité, à part ça, quels sont les instituts qui forment des gens de métiers qui sont des métiers importants? Aujourd'hui, le nombre élevé des juristes que nous avons, le nombre élevé de médecins, même si on n'a pas encore beaucoup de médecins pour toute la République, le nombre élevé des économistes, mais combien de menuisiers nous avons?
Si vous le permettez, monsieur le DG, on va ouvrir à nouveau le standard pour écouter cette deuxième série des auditeurs.
Merci.
En tout cas, sous votre permission, avec votre permission, pardon. Donc, on va écouter Olivier qui est à Kikwit, Charles à Kolwezi et Kachama dans la même ville. Olivier, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Oui, cher, bonjour et bonjour à l'invité.
Quelle est votre contribution, Charles? Pardon, Olivier.
Oui, cher, bon, moi, voici ce que je veux dire. Il y a un premier problème que nous devons résoudre. Nous appelons les investisseurs, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais actuellement, je crois que tout le monde sait que nous vivons dans un climat d'incertitude. Incertitude politique, incertitude sécuritaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes sur le plan sécuritaire et sur le plan politique. Alors, tant qu'on ne va pas résoudre de façon visible ces problèmes-là, ça, ce sera un premier frein pour les investisseurs étrangers. Alors, je vais rappeler à tout le monde, et l'invité le sait très bien, le plan Marshall en Europe avait bien fonctionné après la Deuxième Guerre mondiale parce que les infrastructures de base étaient au point. Et nous, en RDC, de ce côté-là, nous n'avons absolument rien. Les routes, je vous dis que si vous venez investir dans le Kwilu, par exemple, ben, vous devez pleurer chaque jour quand votre véhicule doit se déplacer ou quand vous-même vous devez vous déplacer. Alors, il y a un autre problème, et là, je crois que je vais condamner la NAPI. J'ai devant moi le décret du Premier ministre 09/33 du 8 août 2009. On dit ceci à l'article 3. Les missions de la NAPI sont les suivantes. Je ne vais pas toutes les citer. Il y a œuvrer pour l'amélioration du climat des affaires, ils le font tous les jours, mais c'est en théorie. Et deuxième mission, promouvoir les investissements publics et privés. Les investissements publics, et moi je crois que si nous ne réussissons pas à promouvoir les investissements publics dans notre pays, eh bien, les autres nous regardent et se disent, mais ces gens qui savent bien faire pour eux-mêmes et par eux-mêmes, de quoi sont-ils capables, de quoi ont-ils peur? Alors, un autre problème. Je crois que la NAPI, avec le gouvernement, l'inviter à parler de mauvaise gouvernance. Et là, moi, je vais mettre tout le monde dans le même sac. Je prends l'exemple de Kibali Gold Mining. On en a parlé il y a quelques jours. Mm-hmm. Si vous voyez le contrat que la Sokimo a signé avec Kibali Gold Mining, excusez-moi, c'est un contrat bidon. Et aujourd'hui, tout le monde en parle et la NAPI était là. Et donc, je crois que la NAPI fait des choses pour aider à la mauvaise gouvernance. Parce que la Sokimo, si aujourd'hui elle ne sait rien faire,
fait, voilà.
Si,
tombe en
si
faillite, les travailleurs ils n'ont plus rien.
Dommage, oui.
Allez-y Olivier, parce que vous évoquez les cas de Sokimo. Nous avons fait mention quand même lors de l'émission de Kibali Gold Mining avec l'anniversaire. On va y revenir d'ailleurs dans les prochains jours long et en détail.
Oui, justement. Je voulais dire que des contrats comme ceux-là, il y en a tout plein dans cette République et la Sokimo et la NAPI est complice. Et donc, moi je n'aimerais pas qu'on fasse des choses de façon théorique alors qu'on est en train d'aider à nous enfoncer. Et j'aimerais que le DG nous dise exactement quelle est leur part dans tous ces contrats bidons, alors que...
Oui, mais Olivier, mais quelque part, il faut reconnaître que c'est quand même tout un processus, la réforme, cette réforme-là. C'est tout un processus. On ne peut pas résoudre tous les problèmes en une journée, ou encore en une année, ou en deux ans. Parce qu'aujourd'hui, la question, par exemple, du guichet unique. Et autrefois, c'était difficile d'obtenir des documents. La procédure était tellement longue, et puis les gens s'est fatigués. Mais le fait qu'il y a déjà cet effort consenti par le gouvernement, les autorités, on est arrivé quand même à réduire sensiblement les délais.
Je suis tout à fait d'accord. Mais l'invité à la NAPI, ils sont les premiers conseillers du gouvernement en matière d'investissement. Et donc,
conseil technique.
Aujourd'hui, nous continuons à trébucher. Et moi, je me dis que la NAPI ne fait pas son travail. Et donc, ça, c'est. Je vais terminer par là.
Merci beaucoup, donc, Olivier. Alors, donc, pour vous, la NAPI, qui devait jouer le rôle de conseil technique, ne joue pas exactement ce rôle. Bon, on a l'impression que finalement, ça devient une entreprise commerciale, si je comprends un peu votre souci. Merci beaucoup, Olivier. Et Charles, vous êtes à Colésie. Bonjour, Charles.
Ah, bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Quel est votre avis?
Je salue vraiment la pertinence de mon prédécesseur. Je crois qu'il a évoqué beaucoup de choses que moi aussi je voulais aussi en parler. Mais bon, moi je voudrais plutôt pour voir les choses de notre angle. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle des investissements, on parle des investisseurs qui doivent venir au Congo et il faut assainir notre climat des affaires. Tout ça c'est une bonne théorie. On parle de la corruption. J'admire beaucoup les idées du DG. Hein, il a vraiment très bien présenté les choses. L'instabilité politique, l'insécurité qu'on soit. C'est très bien. Sachez que ces mots ne sont pas inventés au Congo. La corruption, elle existe partout. La mauvaise gouvernance, elle existe partout. Mais chez nous, il faut maintenant qu'on se pose la question. Qu'est-ce qui fait que les gens ne viennent pas chez nous? Moi, je prends le cas de la Zambie. Vous voudriez me dire que la Zambie, ici, c'est un bon modèle en termes de bonne gouvernance? Même pas. Mais il y a un peu de volonté. Il y a un peu de volonté pour bien faire les choses. Et puis, autre chose que moi, je voudrais beaucoup plus souligner et m'appuyer là-dessus, c'est d'abord qu'on arrive à faire l'état des lieux des investissements en cours, des investissements qui existent dans ces pays. Messieurs les journalistes, regardez comment nos minerais, nos mines sont bradées à longueur de journée. Il y a des contrats qui se signent dans des conditions que tout le monde connaît. Mais est-ce que ces investissements profitent aux Congolais? Mais non, ça ne profite pas aux Congolais. C'est beau bien de dire que non, on va attirer d'autres investisseurs. Mais il faut d'abord qu'on fasse l'état des lieux, qu'on voit quels sont les impacts que ces investissements qui existent chez nous ont sur la vie sociale des Congolais. Moi, je suis à Colombie, je vois tous les jours ce qui se passe. Regardez comment les choses se font dans les mines. Il y a des sociétés minières qui sont ici, où quand ils veulent entreprendre un petit projet de 2 millions de dollars, je vous avoue que 1 600 000 dollars vont à l'étranger dans l'acquisition des matériels et consorts, et les 400 000 dollars restent au Congo et on distribue à des petits sous-traitants ici dans des conditions que tout le monde connaît. Mais cette situation doit changer. Il faut que les
Charles, s'il vous plaît, Charles, avez-vous déjà eu le temps de scruter les nouveaux codes miniers?
Les climats,
le nouveau code minier.
Qui sont en cours. Pourquoi est-ce qu'on souhaite faire venir d'autres investisseurs? Aujourd'hui, on parle du Congo comme étant un scandale énergétique. Parce que moi, je suis dans le secteur de l'énergie. C'est vrai, mais quels sont les préalables? Quelles sont les lois qui protègent ces investisseurs qui vont venir? Les gens vont venir chez nous, ils vont exploiter le soleil de chez nous pour
donner l'énergie pour extraire l'énergie.
Voilà, vous êtes prêts, il y a là une complexité. Merci beaucoup. Il y a vraiment, c'est, on va voir cet aspect, hein, des choses, mais vous exigez, c'est, je retiens bien, l'état des lieux des investissements à RDC. Charles, merci. Alors, Kachama, vous êtes à Colésie. Bonjour, Charles, Kachama.
Bonjour, JR.
Merci.
Je voudrais juste rectifier une petite chose. Je ne suis pas dans la ville de Colosie, je suis dans la ville de Likasi.
Allez-y, vous avez la parole.
Okay, merci beaucoup pour l'accord de la parole. Ici, moi, je voudrais dire que cet appel aux investisseurs lancé par le chef de l'État, c'est une bonne chose à laquelle on ne peut pas barrer la route. Et les investisseurs dont il est question, ce sont les investisseurs africains qui sont demandés de venir investir ici chez nous en République démocratique du Congo. Il y a des raisons pour cela. Ce que je connais, moi je vis la ville de Likasi. Il y a des entreprises qui existent ici à Likasi. Ce sont les entreprises des investisseurs étrangers qui ne sont pas de l'Afrique, mais qui sont d'autres continents du monde entier. Mais lorsque vous regardez dans les sociales, à ce qui concerne ces investisseurs, je crois que vous n'allez pas comprendre qu'il y a les entreprises qui existent, par exemple, chez nous à Likasi. Vraiment, c'est drôle. On ne sait même pas comment expliquer ça. Maintenant, ces investisseurs africains-là qui sont appelés de venir investir ici chez nous en République démocratique du Congo, c'est-à-dire quand ils viendront ici chez nous, ils feront de sorte que l'Afrique aille en avant. Ils feront de sorte que même notre pays, la République démocratique du Congo, aille aussi de l'avant. Parce que si ils prennent la richesse de notre pays, la République démocratique du Congo, et investissent l'Afrique et le Congo aussi, ce sera une bonne chose. Parce que j'ai eu à vivre certains investisseurs ici chez nous, à Likasi. Il y avait les investisseurs qui ne sont pas de l'Afrique, hein, qui viennent d'autres continents du monde. Donc, ils ont investi. Mais après avoir eu ce dont ils avaient besoin, ils ont fermé même les entreprises. Mmh. Et aujourd'hui, je vous dis que les gens qu'ils avaient engagés à cette époque-là,
ils sont au chômage.
Mmh. Or, si ce sont les investisseurs africains qui viennent investir ici chez nous en République démocratique du Congo, là où je dirais dans le pays, dans le continent africain, je crois que ça sera une bonne chose. Les entreprises vont rester, le développement sera pour le Congo, le développement sera...
Oui, mais la grande question, Kachama, voilà, combien l'Afrique compte telle des entreprises avec un capital important pour investir ailleurs? Donc c'est la grande question des entreprises africaines.
Oui, bien sûr. Si quelqu'un dit par exemple que moi je vais investir quelque part, une entreprise africaine qui dit que je vais investir en République démocratique du Congo, là on ne sait pas, oui, là on ne sait pas connaître le capital qu'il a là-bas pour venir investir chez nous en République démocratique du Congo. Mais s'il se décide de venir investir, c'est-à-dire il y a toutes les prérogatives, donc tous les moyens sont réunis.
Oui, parce que les moyens sont réunis, mais est-ce qu'il existe des entreprises africaines qui peuvent faire l'affaire? C'est ça la question. Merci beaucoup, Kachama. Alors, Félicien, vous allez répondre quand même à cette question et puis contribuer dans cette émission. Félicien, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Gér, bonjour à tous les hôtels de Radio Capi et bonjour à l'invité aussi.
Vous avez la parole, Félicien.
Oui, mais nous sommes en train de parler des réformes et de ceci, de cela. Et ça va faire maintenant 60 ans après l'indépendance, mais rien n'a bougé. Et ça dit que c'est pas un problème de réformes, des entreprises ou des méthodologies ou des structures, mais c'est un problème d'hommes. Mais je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui a changé pour que nous puissions croire que les choses peuvent aller. Quand les entreprises publiques font partie du gâteau qu'on devra se distribuer après le ministère, ça sera les entreprises publiques. Même s'il y a même si on nomme des hommes, des fils, maisons et tout ça, tant qu'ils dépendront d'un regroupement, et ils vont travailler en fonction de ces regroupements. Et les entreprises privées ou les PME, et les PME sont souffrent plutôt des multiplicités de taxes qui sont en train plutôt de les confiner. Et vous allez parler des investisseurs, mais ceux qui imposent des conditions de corruption aux investisseurs sont toujours en fonction, sont toujours aux affaires. nous pouvons émettre.
Donc, si je comprends bien, Félicien, vous évoquez là la question de retour de 10%.
Ah, bien sûr.
Voilà, il faut le dire clairement, quoi, parce que vous évoquez cela, mais le commun des mortels, ceux qui vous suivent, ils ne maîtrisent pas. Donc, quand les investisseurs arrivent, on exige la commission, 10%, le retour au niveau des frais de fonctionnement, c'est ça?
Oui, mais ils sont toujours là, ces gens-là. Il n'y a rien qui s'est passé qui puisse changer leur comportement et contenu.
Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Félicien. Alors, on revient à vous, monsieur le DG, Anthony Kinzo. Voilà. Je crois que si on laissait encore 2 heures ou 3 heures, les gens reviendront encore sur la NAPI. Aujourd'hui, qui semble être un peu complice, hein. Au fait, c'est l'intervention de quelqu'un tout à l'heure.
Mais je suis tout à fait d'accord. Et moi, je voudrais encore vous dire merci, JR, et merci aux différents auditeurs pour leur pertinente contribution, surtout à notre frère Olivier, qui a parlé de l'incertitude politique et sécuritaire. Et il a parlé du décret de la NAPI, qui a déjà évolué, en fait. Mmh. Hein, et où nous avons la question, il parle bien des différentes
missions. Investissement public et privé.
La promotion du climat des affaires, nous le faisons tous les jours, et ce n'est pas une théorie, et nous sommes en train de le faire tous les jours. Je ne vais pas réagir pour avoir un dialogue avec lui, mais je suis en train de lui dire que j'ai pris ses contributions, mais en même temps, je lui dis, s'il se renseignait très bien, il allait voir que nous faisons la vraie promotion sur la question du climat des affaires. Nous réunissons tous les mercredis des experts interinstitutionnels qui discutent des débats, qui discutent en fait d'un certain nombre de textes. Ces experts, il y en a aussi bien de la société civile, donc FECT, FENAPEC, COPEMECO et d'autres institutions, que des différents services qui viennent avec des projets de réforme. Et d'ailleurs là, nous avons une feuille de route que nous allons bientôt communiquer aux secrétaires généraux et aux membres du gouvernement pour les faire valider. La question de la promotion de l'investissement public-privé, nous le faisons. Je ne vais pas aller dans le débat de Kibali Mining et Sokimo. Ce n'est pas le lieu pour parler d'une question aussi publique et aussi privée. Mais s'il se renseigne bien dans ce contrat, il pourra avoir des éléments de réponse. Nous faisons de la promotion de l'investissement privé d'abord, en faisant en sorte qu'il puisse y avoir des B2B. Nous réunissons au niveau de la NAPI des investisseurs privés qui cherchent des fonds et des gens qui ont des fonds qui cherchent des projets. Nous les mettons ensemble. Et là, il y en a qui sont en train d'évoluer. Nous faisons en sorte que le public rencontre des privés. Le public, nous avons des cas de la SNEL, nous avons des cas de l'ONT par exemple, nous avons des cas de certaines structures qui ont des projets, qui recherchent de l'argent, et nous les amenons pour qu'ils puissent avoir cette promotion-là. Et l'un des autres volets sur la question de la promotion de l'investissement public est d'abord l'arsenal juridique. Aujourd'hui, nous avons la loi sur le partenariat public-privé. Aujourd'hui, il est peut-être bien connu qu'on n'a pas encore des textes d'accompagnement, mais la loi cadre, elle existe, la loi mère, elle existe. Ça, c'est un pas. Et Charles, au niveau de Colouésie, il a parlé de l'état des lieux des investissements en RDC et il a parlé de la question minière. Je voudrais ici donner un certain nombre des chiffres. En 2017, nous avons eu 57 dossiers qui ont été agréés au code des investissements. En 2018, nous avons 95 dossiers qui ont été agréés au code des investissements. Lorsque je prends la somme de ces deux dossiers, nous avons, en termes de coût d'investissement, intention d'investissement, 7,836,616,032. En termes de coût d'investissement, ça veut dire qu'il devait être des dossiers qui allaient créer de l'emploi. Et le nombre d'emplois à créer direct, 20,102. Et indirect, vous pouvez avoir des exposants, il peut y avoir 20,000 autres qui se créent et les ménages sont là. Et aujourd'hui, quand je regarde dans cette proportion de 2017-2018, les nationaux qui ont dû être agréés au code des investissements, nous avons 53 projets des nationaux, des Congolais, qui ont agréé leur projet avec un montant de 1,133 milliard et qui a créé 5,820 millions. Et ça, c'est pour 2018. Et lorsque je regarde des dossiers qui ont été des entreprises que nous avons accompagnées au niveau du code des investissements, au niveau de la NAPI, pour qu'elles puissent se retrouver dans une structure comme quoi elles quittent l'informel au formel, nous avons 102 entreprises simplement pour le mois de juillet, du 1er juillet au 15 juillet, 102 entreprises qui ont été validées, qui ont quitté l'informel pour le formel. Ça veut dire que nous sommes en train de pouvoir accompagner. La voie que nous portons trouve du répondant. Maintenant, une chose est de pouvoir se formaliser, l'autre chose est de pouvoir maintenant faire face. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une question de temps. On ne commence pas un business pour commencer à gagner directement.
Tout à fait.
Sauf si on se met de la cocaïne, sauf si on se met dans les trafics d'organes. C'est que je ne pense pas que l'on fait. L'entrepreneuriat nécessite du temps, nécessite du labeur, nécessite le processus, et ça c'est très important. Je reviens à ce que monsieur, qui a parlé de l'impact de l'investissement sur la vie sociale des Congolais. Aujourd'hui, la création d'emplois peut donner un travail à quelqu'un. Je parle d'une société qui peut créer 2 emplois. deux emplois, ça peut faire en sorte qu'un ménage de deux, trois personnes puisse aller à l'école, n'est-ce pas? Et ensuite, nous allons avoir un certain nombre de contributions. Mais je l'ai dit dès le départ, le challenge est encore grand. On a besoin des entreprises qui viennent créer un peu plus nombre d'emplois.
Mais j'ai posé tout à l'heure la question à un auditeur. Combien l'Afrique compte réellement des entreprises qui peuvent investir en RDC?
Vous savez, il est très difficile...
Est-ce que vous avez une idée en tant que...
Non, il serait difficile de pouvoir présenter le nombre d'entreprises. Il est peut-être important de pouvoir dire qu'il existe des initiatives qui regroupent des entreprises. La Fondation Eli Melou qui existe au niveau du Nigeria, mais ici en RDC, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle l'initiative Makutano, par exemple, qui met ensemble des investisseurs qui sont en train de réfléchir. Et d'ailleurs, je voudrais demander aux hommes d'affaires de venir au Makutano en septembre, de 6 au 7, et ils vont rencontrer des chefs d'entreprise qui vont échanger et qui vont communiquer. Et nous, à NAPI, nous avons un panel sur la question du climat des affaires. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'il y a autant d'entreprises qui existent.
Organiser des rencontres, des forums comme ça.
Ce sont des B2B. Mais les chambres de commerce le font aussi. Les chambres de commerce appellent les investisseurs pour dire quelles sont vos opportunités, quelles sont vos forces, quelles sont les potentialités que vous avez. Mais ce que nous avons dans les entreprises congolaises, dans les PME, je ne dis pas toutes, je respecte les PME congolaises, mais la plupart que nous recevons et quand nous échangeons avec l'OPEC, c'est la question de la qualification. Quel est le business plan que la PME a? Quelle est la vision que cette PME a? Et nous nous retrouvons dans des difficultés d'une banque commerciale d'accorder du crédit à une PME parce qu'elle n'a pas, par exemple, des états financiers corrects. Par exemple, elle n'a pas la qualification qu'il faut. Donc aujourd'hui, pour faire de la promotion de la question du climat des affaires, nous ne visons pas seulement les investisseurs directs étrangers, pour ne pas dire des investisseurs nationaux, mais aussi...
Juste une question de curiosité, ça peut paraître aussi trop bête, parce qu'on a remarqué ces derniers temps un investissement énorme du côté des supermarchés, hein,
oui.
Sur le plan commerce.
Oui.
Il y en a autant, en tout cas, on peut en citer. Mais de moins en moins, il y a des Congolais qui s'intéressent. Il y a même ceux qui étaient dans cette affaire et puis quittent déjà.
Vous savez, lorsqu'on est face à
vous qui êtes dans les secrets de Dieu, est-ce que vous pouvez...
Non, vous savez, lorsqu'on est face à des choix, face à une gestion, je l'ai dit tout à l'heure...
Donc c'est un problème de choix, c'est un problème de...
Les causes d'une faillite sont multiformes. Il peut y avoir un poids fiscal, il peut y avoir une question de tracasserie, mais il peut y avoir quelque chose qui n'est pas mis sur la place publique. La question de la gestion, par exemple. Mm-hmm. Aujourd'hui, je ne peux pas dire aujourd'hui que une entreprise qui a fermé, elle a dû exposer sa question de gestion. Non! Ils ont le micro le plus facile pour pouvoir dire, et même les réseaux sociaux pour dire, il y a un problème de fiscalité. Mais est-ce qu'elles exposent, ces entreprises-là, les problèmes de gestion, le problème d'orientation stratégique? J'en ai parlé tout à l'heure. Et ça existe aussi dans les causes d'une fermeture.
Qu'est-ce qui expliquerait le boom des supermarchés?
Je pense que c'est un secteur porteur. C'est un secteur porteur. Et moi, j'encourage les gens à aller là-dedans. Vous savez, il y a des initiatives. Pour ne pas la citer, il y a une jeune dame congolaise qui vend des confitures en RDC, Manitech. Pourquoi elle commence à la confiture? Nous avons vu quelqu'un qui est en train de faire de l'usage des anciens pneus qui en fait des meubles. Ça, ce sont des PME. Nous avons des gens, nous les voyons au niveau de la NAPI. C'est tellement des initiatives qui existent. Je voudrais dire aux Congolais d'oser. Ce n'est pas parce que hier il y a quatre personnes qui n'ont pas réussi que ce n'est pas possible. Cherchez les lois. Allez vous informer, faites le business plan et venez au niveau de la NAPI, obtenez la bonne information. Nous allons vous accompagner et c'est ça le message que je peux porter.
Malgré l'absence de cette loi d'accompagnement.
Nous avons des lois d'accompagnement. Au niveau de la NAPI, nous avons des lois d'accompagnement. Et il y a l'appropriation institutionnelle, c'est que nous n'avions pas à une certaine époque. Hier, on ne pouvait peut-être pas percevoir cette loi, cette perception de l'appropriation. Et aujourd'hui, nous l'avons.
On sent. Merci beaucoup. Alors, moi, que vous ayez un dernier mot?
Le seul dernier mot que je puis avoir aujourd'hui, c'est que la question du climat des affaires n'est pas seulement pour la NAPI. La question du climat des affaires n'est pas seulement pour le ministère du plan duquel je dépends. La question du climat des affaires n'est pas seulement la question des ministres, n'est pas seulement la question du président, mais c'est la question
de tous les Congolais.
C'est ça que je peux dire.
Anthony Kinzo, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté d'échanger pendant ces 57 minutes interactives de manière sportive et citoyenne.
Merci J.R.
À très bientôt pour un autre numéro.
À très bientôt.
À très bientôt pour un autre numéro. À vous aussi qui avez l'intérêt pour cette émission sur les investissements. On prend rendez-vous avec vous demain à la même heure. En tout cas, pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.